Le temps retrouvé, chapitre 2, suite. Monsieur de Charlus, qui pouvait être si agréable, devenait odieux quand il abordait ces sujets. Il y apportait la satisfaction qui agace déjà chez un malade qui vous fait tout le temps valoir sa bonne santé. J'ai souvent pensé que, dans le tortillard de Balbec, les fidèles qui souhaitaient tant les aveux devant lesquels ils se dérobaient n'auraient peut-être pas pu supporter cette espèce d'ostentation d'une manie. Et mal à l'aise, respirant mal comme dans une chambre de malade ou devant un morphinomane qui tirerait devant vous sa seringue, ce fussent eux qui eussent mis fin aux confidences qu'ils croyaient désirées. De plus, on était agacé d'entendre accuser tout le monde, et probablement bien souvent sans aucune espèce de preuve, par quelqu'un qui s'omettait lui-même de la catégorie spéciale à laquelle on savait pourtant qu'il appartenait, et où il rangeait si volontiers les autres. Enfin, lui si intelligent, s'était fait à cet égard une petite philosophie étroite, à la base de laquelle il y avait peut-être un rien des curiosités que Swann trouvait dans la vie. Expliquant tout par ses causes spéciales, et où, comme chaque fois qu'on verse dans son défaut, il était non seulement au-dessous de lui-même, mais exceptionnellement satisfait de lui. C'est ainsi que lui, si grave, si noble, eut le sourire le plus niais pour achever la phrase que voici. Comme il y a de fortes présomptions du même genre que pour Ferdinand de Cobourg à l'égard de l'empereur Guillaume, cela pourrait être la cause pour laquelle le tsar Ferdinand s'est mis du côté des empires de proie. Dame, au fond, c'est très compréhensible. On est indulgent pour une sœur, on ne lui refuse rien. Je trouve que ce serait très joli comme explication de l'alliance de la Bulgarie avec l'Allemagne. Et de cette explication stupide, monsieur de Charlus rit longuement, comme s'il l'avait vraiment trouvée très ingénieuse, alors que, même si elle avait reposé sur des faits vrais, elle était aussi puérile que les réflexions que monsieur de Charlus faisait sur la guerre quand il la jugeait en tant que féodal ou que chevalier de Saint-Jean de Jérusalem. Il finit par une remarque juste. « Ce qui est étonnant, dit-il, c'est que ce public, qui ne juge ainsi des hommes et des choses de la guerre que par les journaux, est persuadé qu'il juge par lui-même. » En cela, M. de Charlus avait raison. On m'a raconté qu'il fallait voir les moments de silence et d'hésitation qu'avait Madame de Forcheville, pareils à ceux qui sont nécessaires, non pas même seulement à l'énonciation, mais à la formation d'une opinion personnelle, avant de dire, sur le ton d'un sentiment intime, « Non, je ne crois pas qu'ils prendront Varsovie. Je n'ai pas l'impression qu'on puisse passer un second hiver. Ce que je ne voudrais pas, c'est une paix boiteuse. Ce qui me fait peur, si vous voulez que je vous le dise, c'est la chambre. Si, j'estime tout de même qu'on pourrait percer. » Et pour dire cela, Odette prenait un air mièvre qu'elle poussait à l'extrême quand elle disait « Je ne dis pas que les armées allemandes ne se battent pas bien, mais il leur manque ce qu'on appelle le cran. » Pour prononcer « le cran » et même simplement pour le « mordant », elle faisait avec sa main le geste de pétrissage et avec ses yeux le clignement des rapins employant un terme d'atelier. Son langage à elle était pourtant plus encore qu'autrefois la trace de son admiration pour les Anglais, qu'elle n'était plus obligée de se contenter d'appeler comme autrefois nos voisins d'outre-Manche, ou tout au plus nos amis les Anglais, mais nos loyaux alliés. Inutile de dire qu'elle ne se faisait pas faute de citer à tout propos l'expression de « fair play » pour montrer les Anglais trouvant les Allemands des joueurs incorrects. Et « ce qu'il faut, c'est gagner la guerre », comme disent nos braves alliés. Tout au plus associait-elle assez maladroitement le nom de son gendre à tout ce qui touchait les soldats anglais et au plaisir qu'il trouvait à vivre dans l'intimité des Australiens, aussi bien que des Écossais, des Néo-Zélandais et des Canadiens. « Mon gendre, Saint-Loup, connaît maintenant l'argot de tous les braves Tommies. Il sait se faire entendre de ceux des plus lointains dominions, et aussi bien qu'avec le général commandant la base, fraternise avec le plus humble private. » Que cette parenthèse sur Madame de Forcheville m'autorise, tandis que je descends les boulevards côte à côte avec Monsieur de Charlus, à une autre plus longue encore, mais utile pour décrire cette époque, sur les rapports de Madame Verdurin avec Brichot. En effet, si le pauvre Brichot était, ainsi que Norpois, jugé sans indulgence par Monsieur de Charlus, parce que celui-ci était à la fois très fin et plus ou moins inconsciemment germanophile, il était encore bien plus maltraité par les Verdurins. Sans doute ceux-ci étaient chauvins, ce qui eût dû les faire se plaire aux articles de Brichot, lesquels d'autre part n'étaient pas inférieurs à bien des écrits où se délectait Madame Verdurin. Mais d'abord, on se rappelle peut-être que, déjà à la Raspelière, Brichot était devenu pour les Verdurins du grand homme qu'il leur avait paru être autrefois, sinon une tête de turc, comme sa niette, du moins l'objet de leur raillerie à peine déguisée. Du moins restait-il, à ce moment-là, un fidèle entre les fidèles, ce qui lui assurait une part des avantages prévus tacitement par les statuts à tous les membres fondateurs associés du petit groupe. Mais au fur et à mesure que, à la faveur de la guerre peut-être, ou par la rapide cristallisation d'une élégance si longtemps retardée, mais dont tous les éléments nécessaires et restés invisibles saturaient depuis longtemps le salon des Verdurins, celui-ci s'était ouvert à un monde nouveau, et que les fidèles, à pas d'abord de ce monde nouveau, avaient fini par être de moins en moins invités. Un phénomène parallèle se produisait pour Brichot. Malgré la Sorbonne, malgré l'Institut, sa notoriété n'avait pas, jusqu'à la guerre, dépassé les limites du salon Verdurin. Mais quand il se mit à écrire, presque quotidiennement, des articles parés de ce faux brillant qu'on l'a vu si souvent dépenser sans compter pour les fidèles, riche, d'autre part, d'une érudition fort réelle, et qu'en vrai sorbonien, il ne cherchait pas à dissimuler de quelque forme plaisante qu'il l'entourât, le grand monde fut littéralement ébloui. Pour une fois, d'ailleurs, il donnait sa faveur à quelqu'un qui était loin d'être une nullité, et qui pouvait retenir l'attention par la fertilité de son intelligence et les ressources de sa mémoire. Et pendant que trois duchesses allaient passer la soirée chez Madame Verdurin, trois autres se disputaient l'honneur d'avoir chez elle à dîner le grand homme, lequel acceptait chez l'une, se sentant d'autant plus libre que Madame Verdurin, exaspérée du succès que ses articles rencontraient auprès du faubourg Saint-Germain, avait soin de ne jamais avoir Brichot chez elle quand il devait s'y trouver quelque personne brillante qu'il ne connaissait pas encore et qui se hâterait de l'attirer. Ce fut ainsi que le journalisme, dans lequel Brichot se contentait, en somme, de donner tardivement, avec honneur et en échange d'émoluments superbes, ce qu'il avait gaspillé toute sa vie gratis et incognito dans le salon des Verdurins, car ses articles ne lui coûtaient pas plus de peine, tant il était disert et savant que ses causeries, eut conduit, et parut même un moment conduire Brichot à une gloire incontestée, s'il n'y avait pas eu Madame Verdurin. Certes, les articles de Brichot étaient loin d'être aussi remarquables que le croyaient les gens du monde. La vulgarité de l'homme apparaissait à tout instant sous le pédantisme du lettré. Et à côté d'images qui ne voulaient rien dire du tout, les Allemands ne pourront plus regarder en face la statue de Beethoven. Schiller a dû frémir dans son tombeau. L'encre qui avait paraffé la neutralité de la Belgique était à peine séchée. Lénine parle, mais autant en emporte le vent la steppe. C'était des trivialités telles que 20 000 prisonniers, c'est un chiffre. Notre commandement saura ouvrir l'œil et le bon. Nous voulons vaincre, un point c'est tout. Mais mêlés à tout cela, tant de savoir, tant d'intelligence, de si justes raisonnements. Or, Madame Verdurin ne commençait jamais un article de Brichot sans la satisfaction préalable de penser qu'elle allait y trouver des choses ridicules, et le lisait avec l'attention la plus soutenue pour être certaine de ne les pas laisser échapper. Or, il était malheureusement certain qu'il y en avait quelques-unes. On n'attendait même pas de les avoir trouvées. La citation la plus heureuse d'un auteur vraiment peu connu, au moins dans l'œuvre à laquelle Brichot se reportait, était incriminée comme preuve du pédantisme le plus insoutenable, et Madame Verdurin attendait avec impatience l'heure du dîner pour déchaîner les éclats de rire de ses convives. « Eh bien, qu'est-ce que vous avez dit du Brichot de ce soir ? J'ai pensé à vous en lisant la citation de Cuvier. Ma parole, je crois qu'il devient fou. »«
Je ne l'ai pas encore lu, » disait un fidèle.
« Comment vous ne l'avez pas encore lu ? Mais vous ne savez pas les délices que vous vous refusez, c'est-à-dire que c'est d'un ridicule à mourir. » Et content au fond que quelqu'un n'eût pas encore lu le Brichot pour avoir l'occasion d'en mettre elle-même en lumière les ridicules, Madame Verdurin disait au maître d'hôtel d'apporter le temps et faisait elle-même la lecture à haute voix, en faisant sonner avec emphase les phrases les plus simples. Après le dîner, pendant toute la soirée, cette campagne anti-brichotiste continuait, mais avec de fausses réserves.
« Je ne le dis pas trop haut, parce que j'ai peur que là-bas, » disait-elle en montrant la comtesse Molé, « on admire assez cela. Les gens du monde sont plus naïfs qu'on ne croit. »
Madame Molé, à qui on tâchait de faire entendre, en parlant assez fort, qu'on parlait d'elle, tout en s'efforçant de lui montrer par des baissements de voix qu'on n'aurait pas voulu être entendu d'elle, reniait lâchement Brichot, qu'elle égalait en réalité à Michelet. Elle donnait raison à Madame Verdurin, et pour terminer pourtant par quelque chose qui lui paraissait incontestable, disait
« Ce qu'on ne peut pas lui retirer, c'est que c'est bien écrit. »«
Vous trouvez ça bien écrit, vous ?» disait Madame Verdurin. « Moi, je trouve ça écrit comme par un cochon. » Audace qui faisait rire les gens du monde, d'autant plus que Madame Verdurin, effarouchée elle-même par le mot de cochon, l'avait prononcé en le chuchotant la main rabattue sur les lèvres. Sa rage contre Brichot croissait d'autant plus que celui-ci étalait naïvement la satisfaction de son succès, malgré les accès de mauvaise humeur que provoquait chez lui la censure. Chaque fois que, comme il le disait avec son habitude d'employer les mots nouveaux pour montrer qu'il n'était pas trop universitaire, elle avait caviardé une partie de son article. Devant lui, Madame Verdurin ne laissait pas trop voir, sauf par une maussaderie qui eût averti un homme plus perspicace, le peu de cas qu'elle faisait de ce qu'il écrivait. Elle lui reprocha seulement une fois d'écrire si souvent « je ». Et il avait, en effet, l'habitude de l'écrire continuellement, d'abord parce que, par habitude de professeur, il se servait constamment d'expressions comme « j'accorde que »,« je veux bien que l'énorme développement des fronts nécessite », etc. Mais surtout parce que, ancien anti-Dreyfusard militant qui flairait la préparation germanique bien longtemps avant la guerre, il s'était trouvé écrire très souvent « J'ai dénoncé dès 1897, j'ai signalé en 1901, j'ai averti dans ma petite brochure aujourd'hui rarissime, Abint sua fata libelli. » Et ensuite l'habitude lui était restée. Il rougit fortement de l'observation de Madame Verdurin qui lui fut faite d'un ton aigre.
Vous avez raison, madame. Quelqu'un qui n'aimait pas plus les jésuites que monsieur Combes, encore qu'il n'ait pas eu de préface de notre doux maître en scepticisme délicieux, Anatole France, qui fut, si je ne me trompe, mon adversaire avant le déluge, a dit que le « moi » est toujours haïssable. À partir de ce moment, Brichot remplaça « je » par « on ». Mais on n'empêchait pas le lecteur de voir que l'auteur parlait de lui, et permit à l'auteur de ne plus cesser de parler de lui, de commenter la moindre de ses phrases, de faire un article sur une seule négation, toujours à l'abri de « on ». Par exemple, Brichot avait-il dit, fût-ce dans un autre article, que les armées allemandes avaient perdu de leur valeur, il commençait ainsi. On ne camoufle pas ici la vérité. On a dit que les armées allemandes avaient perdu de leur valeur. On n'a pas dit qu'elles n'avaient plus une grande valeur. Encore moins écrira-t-on qu'elles n'ont plus aucune valeur. On ne dira pas non plus que le terrain gagné, s'il n'est pas, etc. Bref, rien qu'à énoncer tout ce qu'il ne dirait pas, à rappeler tout ce qu'il avait dit il y avait quelques années, et ce que Clausewitz, Ovid, Apollonius de Tyane avaient dit il y avait plus ou moins de siècles, Brichot aurait pu constituer aisément la matière d'un fort volume. Il est à regretter qu'il n'en ait pas publié, car ses articles, si nourris, sont maintenant difficiles à trouver. Le faubourg Saint-Germain, chapitré par Madame Verdurin, commença par rire de Brichot chez elle, mais continua, une fois sorti du petit clan, à admirer Brichot. Puis se moquer de lui devint une mode, comme ça avait été de l'admirer, et celle même qu'il continuait d'intéresser en secret, dès le temps qu'elle lisait son article, s'arrêtait et riait dès qu'elle n'était plus seule, pour ne pas avoir l'air moins fine que les autres. Jamais on ne parla tant de Brichot qu'à cette époque dans le petit clan, mais par dérision. On prenait comme critérium de l'intelligence de tout nouveau ce qu'il pensait des articles de Brichot. S'il répondait mal la première fois, on ne se faisait pas faute de lui apprendre à quoi l'on reconnaît que les gens sont intelligents. « Enfin, mon pauvre ami !» continua M. de Charlus. « Tout cela est épouvantable, et nous avons plus que d'ennuyeux articles à déplorer. On parle de vandalisme, de statues détruites. Mais est-ce que la destruction de tant de merveilleux jeunes gens, qui étaient des statues polychromes incomparables, n'est pas du vandalisme aussi? Est-ce qu'une ville qui n'aura plus de beaux hommes ne sera pas comme une ville dont toute la statuaire aurait été brisée? Quel plaisir puis-je avoir à aller dîner au restaurant quand j'y suis servi par de vieux bouffons moussus qui ressemblent aux perdidons, si ce n'est pas par des femmes en cornettes qui me font croire que je suis entrée au bouillon du Val? Parfaitement, mon cher, et je crois que j'ai le droit de parler ainsi, parce que le beau est tout de même le beau dans une matière vivante. Le grand plaisir d'être servi par des êtres rachitiques, portant binocle, dont le cas d'exemption se lit sur le visage. Contrairement à ce qui arrivait toujours jadis, si l'on veut reposer ses yeux sur quelqu'un de bien dans un restaurant, il ne faut plus regarder parmi les garçons qui servent, mais parmi les clients qui consomment. Mais on pouvait revoir un servant, bien qu'il changeât souvent. Mais allez donc savoir qui est et quand reviendra ce lieutenant anglais qui vient pour la première fois et sera peut-être tué demain. Quand Auguste de Pologne, comme raconte le charmant Morand, l'auteur délicieux de Clarisse, échangea un de ses régiments contre une collection de potiches chinoises, il fit, à mon avis, une mauvaise affaire. Penser que tous ces grands valets de pied qui avaient 2 mètres de haut et qui ornaient les escaliers monumentaux de nos plus belles amies ont tous été tués, engagés pour la plupart parce qu'on leur répétait que la guerre durerait 2 mois. Ah, ils ne savaient pas, comme moi, la force de l'Allemagne, la vertu de la race prussienne, dit-il en s'oubliant. Et puis, remarquant qu'il avait trop laissé voir son point de vue, « ce n'est pas tant l'Allemagne que je crains pour la France que la guerre elle-même. Les gens de l'arrière s'imaginent que la guerre est seulement un gigantesque match de boxe auquel ils assistent de loin grâce aux journaux. Mais cela n'a aucun rapport. C'est une maladie qui, quand elle semble conjurée sur un point, reprend sur un autre. Aujourd'hui, Noyon sera délivré. Demain, on n'aura plus ni pain ni chocolat. Après-demain, celui qui se croyait tranquille et accepterait au besoin une balle qu'il n'imagine pas s'affolera parce qu'il lira dans les journaux que sa classe est rappelée. Quant au monument, un chef-d'œuvre unique comme Reims, par la qualité, n'est pas tellement ce dont la disparition m'épouvante. C'est surtout de voir anéanti une telle quantité d'ensemble qui rendait le moindre village de France instructif et charmant. Je pensais aussitôt à Combray, et qu'autrefois j'aurais cru me diminuer aux yeux de madame de Guermantes en avouant la petite situation que ma famille occupait à Combray. Je me demandais si elle n'avait pas été révélée aux Guermantes et à monsieur de Charlus, soit par le Grandin ou Swann, ou Saint-Loup ou Morel. Mais cette prétérition même était moins pénible pour moi que des explications rétrospectives. Je souhaitais seulement que monsieur de Charlus ne parlât pas de Combray. Je ne veux pas dire de mal des Américains, monsieur, continua-t-il. Il paraît qu'ils sont inépuisablement généreux, et comme il n'y a pas eu de chef d'orchestre dans cette guerre, que chacun est entré dans la danse longtemps après l'autre, et que les Américains ont commencé quand nous étions quasiment finis, ils peuvent avoir une ardeur que 4 ans de guerre ont pu calmer chez nous. Même avant la guerre, ils aimaient notre pays, notre art. Ils payaient fort cher nos chefs-d'œuvre. Beaucoup sont chez eux maintenant. Mais précisément, cet art déraciné, comme dirait M. Barrès, est tout le contraire de ce qui faisait l'agrément délicieux de la France. Le château expliquait l'église, qui elle-même, parce qu'elle avait été un lieu de pèlerinage, expliquait la chanson de geste. Je n'ai pas à surfaire l'illustration de mes origines et de mes alliances, et d'ailleurs ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Mais dernièrement, j'ai eu à régler une question d'intérêt, et malgré un certain refroidissement qu'il y a entre le ménage et moi, à aller faire une visite à ma nièce Saint-Loup qui habite à Combray. Combray n'était qu'une toute petite ville, comme il y en a tant. Mais nos ancêtres étaient représentés en donateurs dans certains vitraux, dans d'autres étaient inscrites nos armoiries. Nous y avions notre chapelle, nos tombeaux. Cette église a été détruite par les Français et par les Anglais, parce qu'elle servait d'observatoire aux Allemands. Tout ce mélange d'histoire survivante et d'art, qui était la France, se détruit, et ce n'est pas fini. Et bien entendu, je n'ai pas le ridicule de comparer, pour des raisons de famille, la destruction de l'église de Combray à celle de la cathédrale de Reims, qui était comme le miracle d'une cathédrale gothique, retrouvant naturellement la pureté de la statuaire antique, ou de celle d'Amiens. Je ne sais si le bras levé de Saint-Firmin est aujourd'hui brisé. Dans ce cas, la plus haute affirmation de la foi et de l'énergie a disparu de ce monde. Son symbole, monsieur, lui répondis-je, et j'adore autant que vous certains symboles, mais il serait absurde de sacrifier au symbole la réalité qu'il symbolise. Les cathédrales doivent être adorées jusqu'au jour où, pour les préserver, il faudrait renier les vérités qu'elles enseignent. Le bras levé de Saint-Firmin, dans un geste de commandement presque militaire, disait « Que nous soyons brisés si l'honneur l'exige. Ne sacrifiez pas des hommes à des pierres, dont la beauté vient justement d'avoir un moment fixé des vérités humaines. » « Je comprends ce que vous voulez dire, » me répondit M. de Charlus. Et M. Barrès, qui nous a fait, hélas, trop faire de pèlerinage à la statue de Strasbourg et au tombeau de M. Desroulèdes, a été touchant et gracieux quand il a écrit que la cathédrale de Reims elle-même nous était moins chère que la vie de nos fantassins.
assertion qui rend assez ridicule la colère de nos journaux contre le général allemand qui commandait là-bas, et qui disait que la cathédrale de Reims lui était moins précieuse que celle d'un soldat allemand. C'est du reste ce qui est exaspérant et navrant, c'est que chaque pays dit la même chose. Les raisons pour lesquelles les associations industrielles de l'Allemagne déclarent la possession de Belfort indispensable à préserver leur nation contre nos idées de revanche sont les mêmes que celles de Barrès, exigeant Mayence pour nous protéger contre les velléités d'invasion des Boches. Pourquoi la restitution de l'Alsace-Lorraine a-t-elle paru à la France un motif insuffisant pour faire la guerre, un motif suffisant pour la continuer, pour la redéclarer à nouveau chaque année? Vous avez l'air de croire que la victoire est désormais promise à la France. Je le souhaite de tout mon cœur. Vous n'en doutez pas. Mais enfin, depuis qu'à tort ou à raison, les Alliés se croient sûrs de vaincre. Pour ma part, je serais naturellement enchantée de cette solution. Mais je vois surtout beaucoup de victoires sur le papier, de victoires à la Pyrrhus, avec un coup qui ne nous est pas dit. Et que les Boches ne se croient plus sûrs de vaincre. On voit l'Allemagne chercher à hâter la paix, la France à prolonger la guerre. La France, qui est la France juste, et a raison de faire entendre des paroles de justice. Mais est aussi la douce France, et devrait faire entendre des paroles de pitié, fût-ce seulement pour ses propres enfants, et pour qu'à chaque printemps, les fleurs qui renaîtront aient autre chose à éclairer que des tombes. Soyez franc, mon cher ami. Vous-même m'aviez fait une théorie sur les choses qui n'existent que grâce à une création perpétuellement recommencée. La création du monde n'a pas eu lieu une fois pour toutes, me disiez-vous. Elle a nécessairement lieu tous les jours. Eh bien, si vous êtes de bonne foi, vous ne pouvez pas accepter la guerre de cette théorie. Notre excellent Norpois a beau écrire, en sortant un des accessoires de rhétorique qui lui sont aussi chers que l'aube de la victoire et le général hiver. Maintenant que l'Allemagne a voulu la guerre, les dés en sont jetés. La vérité, c'est que chaque matin, on déclare à nouveau la guerre. Donc celui qui veut la continuer est aussi coupable que celui qui l'a commencée. Plus peut-être, car ce premier n'en prévoyait peut-être pas toutes les horreurs. Or, rien ne dit qu'une guerre aussi prolongée, même si elle doit avoir une issue victorieuse, ne soit pas sans péril. Il est difficile de parler de choses qui n'ont point de précédent et des répercussions sur l'organisme d'une opération qu'on tente pour la première fois. Généralement, il est vrai, ces nouveautés dont on s'alarme se passent fort bien. Les républicains les plus sages pensaient qu'il était fou de faire la séparation de l'Église. Elle a passé comme une lettre à la poste. Dreyfus a été réhabilité. Picard, ministre de la guerre, sans qu'on crie ouf. Pourtant, que ne peut-on pas craindre d'un surmenage pareil à celui d'une guerre ininterrompue pendant plusieurs années? Que feront les hommes au retour? Seront-ils là? La fatigue les aura-t-elle rompus ou affolés? Tout cela pourrait mal tourner, sinon pour la France, au moins pour le gouvernement, peut-être même pour la forme du gouvernement. Vous m'avez fait lire autrefois l'admirable Aimé de Coigny de Maurras. Je serais fort surpris que quelque Aimé de Coigny n'attendît pas du développement de la guerre que fait la République ce qu'en 1812 Aimé de Coigny attendit de la guerre que faisait l'Empire. Si l'Aimé actuel existe, ses espérances se réaliseront-elles? Je ne le désire pas. Pour en revenir à la guerre elle-même, le premier qui l'a commencé, est-il l'empereur Guillaume? J'en doute fort. Et si c'est lui, qu'a-t-il fait autre chose que Napoléon, par exemple? Chose que moi je trouve abominable, mais que je m'étonne de voir inspirer tant d'horreur aux thuréféraires de Napoléon, aux gens qui, le jour de la déclaration de guerre, se sont écriés comme le général X, « J'attendais ce jour-là depuis 40 ans. C'est le plus beau jour de ma vie. »
Dieu sait si personne a protesté avec plus de force que moi, quand on a fait dans la société une place disproportionnée aux nationalistes, aux militaires. Quand tout ami des arts était accusé de s'occuper de choses funestes à la patrie. Toute civilisation qui n'était pas belliqueuse étant délétère. C'est à peine si un homme du monde authentique comptait auprès d'un général. Une folle faillit me présenter à M. Siveton. Vous me direz que ce que je m'efforçais de maintenir n'était que les règles mondaines. Mais, malgré leur frivolité apparente, elles eussent peut-être empêché bien des excès. J'ai toujours honoré ceux qui défendent la grammaire ou la logique. On se rend compte 50 ans après qu'ils ont conjuré de grands périls. Or, nos nationalistes sont les plus germanophobes, les plus jusqu'au boutistes des hommes. Mais après 15 ans, leur philosophie a changé entièrement. En fait, ils poussent bien à la continuation de la guerre. Mais ce n'est que pour exterminer une race belliqueuse et par amour de la paix. Car une civilisation guerrière, ce qu'ils trouvaient si beau il y a 15 ans, leur fait horreur. Non seulement ils reprochent à la Prusse d'avoir fait prédominer chez elle l'élément militaire, mais en tout temps, ils pensent que les civilisations militaires furent destructrices de tout ce qu'ils trouvent maintenant précieux. Non seulement les arts, mais même la galanterie. Il suffit qu'un de leurs critiques se soit converti au nationalisme pour qu'il soit devenu du même coup un ami de la paix. Il est persuadé que dans toutes les civilisations guerrières, la femme avait un rôle humilié et bas. On ose lui répondre que les dames des chevaliers au Moyen-Âge et la Béatrice de Dante étaient peut-être placées sur un trône aussi élevé que les héroïnes de M. Beck. Je m'attends un de ces jours à me voir placé à table après un révolutionnaire russe ou simplement après un de nos généraux faisant la guerre par horreur de la guerre et pour punir un peuple de cultiver un idéal qu'eux-mêmes jugeaient le seul tonifiant il y a 15 ans. Le malheureux tsar était encore honoré il y a quelques mois parce qu'il avait réuni la conférence de La Haye. Mais maintenant qu'on salue la Russie libre, on oublie le titre qui permettait de la glorifier. Ainsi tourne la roue du monde. Et pourtant, l'Allemagne emploie tellement les mêmes expressions que la France que c'est à croire qu'elle la cite. Elle ne se lasse pas de dire qu'elle lutte pour l'existence. Quand je lis « Nous luttons contre un ennemi implacable et cruel jusqu'à ce que nous ayons obtenu une paix qui nous garantisse l'avenir de toute agression et pour que le sang de nos braves soldats n'ait pas coulé en vain. » Ou bien « Qui n'est pas pour nous est contre nous. » Je ne sais pas si cette phrase est de l'empereur Guillaume ou de M. Poincaré, car ils l'ont, à quelques variantes près, prononcé 20 fois l'un et l'autre. Bien qu'à vrai dire, je doive confesser que l'empereur ait été en ce cas l'imitateur du président de la République. La France n'aurait peut-être pas tenu tant à prolonger la guerre si elle était restée faible, mais surtout l'Allemagne n'aurait peut-être pas été si pressée de la finir si elle n'avait pas cessé d'être forte. D'être aussi forte, car forte, vous verrez qu'elle l'est encore. Il avait pris l'habitude de crier très fort en parlant, par nervosité, par recherche d'issue pour des impressions dont il fallait, n'ayant jamais cultivé aucun art, qu'il se débarrassât, comme un aviateur de ses bombes, fût-ce en plein champ, là où ses paroles n'atteignaient personne, et surtout dans le monde où elles tombaient au hasard, et où il était écouté par snobisme, de confiance, et tant il tyrannisait les auditeurs, on peut dire de force, et même par crainte. Sur les boulevards, cette harangue était de plus une marque de mépris à l'égard des passants pour qui il ne baissait pas plus la voix qu'il n'eût dévié son chemin. Mais elle y détonnait, y étonnait, et surtout rendait intelligible à des gens qui se retournaient des propos qui eussent pu nous faire prendre pour des défaitistes. Je le fis remarquer à M. de Charlus sans réussir qu'à exciter son hilarité. « Avouez que ce serait bien drôle, » dit-il. « Après tout, » ajouta-t-il, « on ne sait jamais. Chacun de nous risque chaque soir d'être le fait divers du lendemain. En somme, pourquoi ne serais-je pas fusillé dans les fossés de Vincennes ? La même chose est bien arrivée à mon grand-oncle, le duc d'Enghien. La soif du sang noble affole une certaine populace, qui en cela se montre plus raffinée que les lions. Vous savez que pour ces animaux, il suffirait pour qu'ils se jetassent sur elle que Madame Verdurin eût une écorchure sur son nez. Sur ce que, dans ma jeunesse, on eût appelé son pif. » Et il se mit à rire à gorge déployée, comme si nous avions été seuls dans un salon. Par moments, voyant des individus assez louches extraits de l'ombre par le passage de M. de Charlus se conglomérer à quelque distance de lui, je me demandais si je lui serais plus agréable en le laissant seul ou en ne le quittant pas. Tel celui qui a rencontré un vieillard sujet à de fréquentes crises épileptiformes et qui voit, par l'incohérence de la démarche, l'imminence probable d'un accès, se demande si sa compagnie est plutôt désirée comme celle d'un soutien ou redoutée comme celle d'un témoin à qui on voudrait cacher la crise et dont la présence seule peut-être, quand le calme absolu réussirait à l'écarter, suffira à la hâter. Mais la possibilité de l'événement duquel on ne sait si l'on doit s'écarter ou non est révélée, chez le malade, par les circuits qu'il fait comme un homme ivre. Tandis que pour M. de Charlus, les diverses positions divergentes, signe d'un incident possible dont je n'étais pas bien sûr qu'il souhaitait ou redoutait que ma présence l'empêchât de se produire, étaient, par une ingénieuse mise en scène, occupées non par le baron lui-même, qui marchait fort droit, mais par tout un cercle de figurants. Tout de même, je crois qu'il préférait éviter la rencontre, car il m'entraîna dans une rue de traverse, plus obscure que le boulevard, et où celui-ci ne cessait de déverser des soldats de toute arme et de toute nation. Un flux juvénile, compensateur et consolant, pour M. de Charlus, de ce reflux de tous les hommes à la frontière qui avait fait frénétiquement le vide dans Paris au premier temps de la mobilisation. M. de Charlus ne cessait pas d'admirer les brillants uniformes qui passaient devant nous et qui faisaient de Paris une ville aussi cosmopolite qu'un port, aussi irréelle qu'un décor de peintre qui n'adressait quelques architectures que pour avoir un prétexte à grouper les costumes les plus variés et les plus chatoyants. Il gardait tout son respect et toute son affection à de grandes dames accusées de défaitisme, comme jadis à celles qui avaient été accusées de dreyfusisme. Il regrettait seulement qu'en s'abaissant à faire de la politique, elles eussent donné prise aux polémiques des journalistes. Pour lui, à leur égard, rien n'était changé. Car sa frivolité était si systématique que la naissance unie à la beauté et à d'autres prestiges était la chose durable, et la guerre, comme l'affaire Dreyfus, des modes vulgaires et fugitives. Eût-on fusillé la duchesse de Guermantes pour essai de paix séparée avec l'Autriche, qu'il l'eût considérée comme toujours aussi noble et pas plus dégradée que ne nous apparaît aujourd'hui Marie-Antoinette d'avoir été condamnée à la décapitation. En parlant à ce moment-là, M. de Charlus, noble comme une espèce de Saint-Vallier ou de Saint-Mégrin, était droit, rigide, solennel, parlait gravement, ne faisait pour un moment aucune des manières où se révèlent ceux de sa sorte. Et pourtant, pourquoi ne peut-il y en avoir aucun dont la voix soit jamais absolument juste ? Même en ce moment où elle approchait le plus du grave, Elle était fausse encore et aurait eu besoin de l'accordeur. D'ailleurs, monsieur de Charlus ne savait littéralement où donner de la tête et il la levait souvent avec le regret de ne pas avoir une jumelle, qui d'ailleurs ne lui eût pas servi à grand-chose, car en plus grand nombre que d'habitude, à cause du raid de Zeppelin de l'avant-veille qui avait réveillé la vigilance des pouvoirs publics, il y avait des militaires jusque dans le ciel. Les aéroplanes que j'avais vus quelques heures plus tôt faire comme des insectes des taches brunes sur le soir bleu passaient maintenant dans la nuit qu'approfondissait encore l'extinction partielle des réverbères comme de lumineux brûlots. La plus grande impression de beauté que nous faisaient éprouver ces étoiles humaines et filantes était peut-être surtout de faire regarder le ciel vers lequel on lève peu les yeux d'habitude dans ce Paris dont, en 1914, j'avais vu la beauté, presque sans défense, attendre la menace de l'ennemi qui se rapprochait. Il y avait certes, maintenant comme alors, la splendeur antique inchangée d'une lune cruellement, mystérieusement sereine, qui versait au monument, encore intact, l'inutile beauté de sa lumière. Mais comme en 1914, et plus qu'en 1914, il y avait aussi autre chose, des lumières différentes et des feux intermittents, que soit de ces aéroplanes, soit des projecteurs de la tour Eiffel, on savait diriger par une volonté intelligente, par une vigilance amie qui donnait ce même genre d'émotion, inspirer cette même sorte de reconnaissance et de calme que j'avais éprouvé dans la chambre de Saint-Loup, dans la cellule de ce cloître militaire où s'exerçait, avant qu'ils consommassent un jour, sans une hésitation, en pleine jeunesse, leur sacrifice. Tant de cœurs fervents et disciplinés. Après le raid de l'avant-veille, où le ciel avait été plus mouvementé que la terre, il s'était calmé comme la mer après une tempête. Mais comme la mer après une tempête, il n'avait pas encore repris son apaisement absolu. Des aéroplanes montaient encore, comme des fusées, rejoindre les étoiles, et des projecteurs promenaient lentement dans le ciel sectionné, comme une pâle poussière d'astres, d'errantes voies lactées. Cependant, les aéroplanes venaient s'insérer au milieu des constellations, et on aurait pu se croire dans un autre hémisphère, en effet, en voyant ces étoiles nouvelles. Monsieur de Charlus me dit son admiration pour ces aviateurs, et comme il ne pouvait pas plus s'empêcher de donner libre cours à sa germanophilie qu'à ses autres penchants, tout en niant l'une comme l'autre. D'ailleurs, j'ajoute que j'admire autant les Allemands qui montent dans des Gotha, et sur des Zeppelins, pensez le courage qu'il faut. Mais ce sont des héros, tout simplement. Qu'est-ce que ça peut faire que ce soit sur des civils qu'ils lancent leurs bombes, puisque ces batteries tirent sur eux? Est-ce que vous avez peur des Gotha et du canon? J'avouais que non, et peut-être je me trompais. Sans doute ma paresse m'ayant donné l'habitude, pour mon travail, de le remettre jour par jour au lendemain, je me figurais qu'il pouvait en être de même pour la mort. Comment aurait-on peur d'un canon dont on est persuadé qu'il ne vous frappera pas ce jour-là? D'ailleurs, formé isolément, ces idées de bombes lancées, de mort possible, n'ajoutèrent pour moi rien de tragique à l'image que je me faisais du passage des aéronefs allemands jusqu'à ce que j'eusse vu de l'un d'eux ballotté, segmenté à mes regards par les flots de brume d'un ciel agité, d'un aéroplane que, bien que je le susse meurtrier, je n'imaginais que stellaire et céleste, j'eusse vu un soir le geste de la bombe lancée vers nous. Car la réalité originale d'un danger n'est perçue que de cette chose nouvelle, irréductible à ce qu'on sait déjà, qui s'appelle une impression, et qui est souvent, comme ce fut le cas là, résumée par une ligne, une ligne qui découvrait une intention, une ligne où il y avait la puissance latente d'un accomplissement qui la déformait. Tandis que sur le pont de la Concorde, autour de l'aéroplane menaçant et tragique, et comme si s'étaient reflétées dans les nuages les fontaines des Champs-Élysées, de la place de la Concorde et des Tuileries, les jets d'eau lumineux des projecteurs s'infléchissaient dans le ciel. Lignes pleines d'intentions aussi, d'intentions prévoyantes et protectrices, d'hommes puissants et sages, auxquels, comme la nuit au quartier de Doncières, j'étais reconnaissant que leur force daigna prendre, avec cette précision si belle, la peine de veiller sur nous. La nuit était aussi belle qu'en 1914, comme Paris était aussi menacé. Le clair de lune semblait comme un doux magnésium continu permettant de prendre une dernière fois des images nocturnes de ces beaux ensembles comme la place Vendôme, la place de la Concorde, auxquels l'effroi que j'avais des obus qui allaient peut-être les détruire donnait par contraste, dans leur beauté encore intacte, une sorte de plénitude, comme si elles se tendaient en avant, offrant au cou leurs architectures sans défense. « Vous n'avez pas peur, » répéta M. de Charlus. « Les Parisiens ne se rendent pas compte. On me dit que Mme Verdurin donne des réunions tous les jours. Je ne le sais que par les « on dit ». Moi, je ne sais absolument rien d'eux. J'ai entièrement rompu. » ajouta-t-il en baissant non seulement les yeux, comme s'y avait passé un télégraphiste, mais aussi la tête, les épaules, et en levant le bras avec le geste qui signifie « sinon, je m'en lave les mains ». Du moins, je ne peux rien vous dire. Bien que je ne lui demandasse rien. « Je sais que Morel y va toujours beaucoup », me dit-il. C'était la première fois qu'il m'en reparlait. On prétend qu'il regrette beaucoup le passé, qu'il désire se rapprocher de moi. » ajouta-t-il, faisant preuve à la fois de cette même crédulité d'homme du faubourg qui dit « On dit beaucoup que la France cause plus que jamais avec l'Allemagne et que les pourparlers sont même engagés. » et de l'amoureux que les pires rebuffades n'ont pas persuadé. « En tout cas, s'il le veut, il n'a qu'à le dire. Je suis plus vieux que lui. » Ce n'est pas à moi à faire les premiers pas. » Et sans doute, il était bien inutile de le dire, tant c'était évident. Mais de plus, ce n'était même pas sincère, et c'est pour cela qu'on était si gêné pour M. de Charlus, car on sentait qu'en disant que ce n'était pas à lui de faire les premiers pas, il en faisait au contraire un, et attendait que j'offrisse de me charger du rapprochement. Certes, je connaissais cette naïve ou feinte crédulité des gens qui aiment quelqu'un, ou simplement ne sont pas reçus chez quelqu'un, et imputent à ce quelqu'un un désir qu'il n'a pourtant pas manifesté, malgré des sollicitations fastidieuses. Malheureusement, dès le lendemain, disons-le tout de suite, M. de Charlus se trouva dans la rue face à face avec Morel. Celui-ci, pour exciter sa jalousie, le prit par le bras, lui raconta des histoires plus ou moins vraies, et quand M. de Charlus, éperdu, ayant besoin que Morel restât cette soirée auprès de lui, le supplia de ne pas aller ailleurs, l'autre, apercevant un camarade, dit adieu à M. de Charlus, qui, de colère, espérant que cette menace, que bien entendu, il semblait ne devoir exécuter jamais, ferait rester Morel, lui dit « Prends garde, je me vengerai. » Et Morel, riant, partit en tapotant sur le cou et en enlaçant par la taille son camarade étonné. À l'accent soudain tremblant avec lequel M. de Charlus avait, en me parlant de Morel, scandé ses paroles, au regard trouble qui vacillait au fond de ses yeux, j'eus l'impression qu'il y avait autre chose qu'une banale insistance. Je ne me trompais pas, et je dirai tout de suite les deux faits qui me le prouvèrent rétrospectivement.
J'anticipe de beaucoup d'années pour le second de ces faits, postérieur à la mort de Monsieur de Charlus. Or, elle ne devait se produire que bien plus tard, et nous aurons l'occasion de le revoir plusieurs fois, bien différent de ce que nous l'avons connu, et en particulier la dernière fois, à une époque où il avait entièrement oublié Morel. Quant au premier de ces faits, il se produisit 2 ans seulement après le soir où je descendais ainsi les boulevards avec Monsieur de Charlus. Donc, environ 2 ans après cette soirée, je rencontrai Morel. Je pensais aussitôt à Monsieur de Charlus, au plaisir qu'il aurait à revoir le violoniste, et j'insistai auprès de lui pour qu'il allât le voir, fût-ce une fois. « Il a été bon pour vous, » dis-je à Morel. « Il est déjà vieux, il peut mourir. Il faut liquider les vieilles querelles et effacer les traces de la brouille. » Morel parut entièrement de mon avis quant à un apaisement désirable, mais il n'en refusa pas moins catégoriquement de faire même une seule visite à Monsieur de Charlus. « Vous avez tort, » lui dis-je. « Est-ce par entêtement, par paresse, par méchanceté, par amour-propre mal placé, par vertu ? Soyez sûr qu'elle ne sera pas attaquée. Par coquetterie ?» Alors le violoniste, tordant son visage pour un aveu qui lui coûtait sans doute extrêmement, me répondit en frissonnant. « Non, ce n'est pour rien de tout cela. La vertu, je m'en fous. La méchanceté, au contraire, je commence à le plaindre. Ce n'est pas par coquetterie, elle serait inutile. Ce n'est pas par paresse. Il y a des journées entières où je reste à me tourner les pouces. Non, ce n'est à cause de rien de tout cela. C'est... Ne le dites jamais à personne. Et je suis fou de vous le dire. C'est par peur. » Il se mit à trembler de tous ses membres. Je lui avouai que je ne le comprenais pas. « Non, ne me demandez pas, n'en parlons plus. Vous ne le connaissez pas comme moi. Je peux dire que vous ne le connaissez pas du tout. » « Mais quel tort peut-il vous faire ? Il cherchera d'ailleurs d'autant moins à vous en faire qu'il n'y aura plus de rancune entre vous. Et puis, au fond, vous savez qu'il est très bon. » « Parbleu, si, je le sais qu'il est bon. Et la délicatesse, et la droiture... Mais laissez-moi, ne m'en parlez plus, je vous en supplie. C'est honteux à dire, j'ai peur. » Le second fait date d'après la mort de Monsieur de Charlus. On m'apporta quelques souvenirs qu'il m'avait laissés et une lettre à triple enveloppe, écrite au moins 10 ans avant sa mort. Mais il avait été gravement malade, avait pris ses dispositions, puis s'était rétabli, avant de tomber plus tard dans l'état où nous le verrons le jour d'une matinée chez la princesse de Guermantes. Et la lettre, restée dans un coffre avec les objets qu'il léguait à quelques amis, était restée là 7 ans, 7 ans pendant lesquels il avait entièrement oublié Morel. La lettre, tracée d'une écriture fine et ferme, était ainsi conçue. « Mon cher ami, les voies de la Providence sont inconnues. Parfois, c'est du défaut d'un être médiocre qu'elle use pour empêcher de faillir la suréminence d'un juste. Vous connaissez Morel, d'où il est sorti, à quelle fête j'ai voulu l'élever, autant dire à mon niveau. Vous savez qu'il a préféré retourner, non pas à la poussière et à la cendre, d'où tout homme, c'est-à-dire le véritable phénix, peut renaître, mais à la boue où rampe la vipère. Il s'est laissé choir, ce qui m'a préservé de déchoir. Vous savez que mes armes contiennent la devise même de notre Seigneur. Inculcabis super leonem et aspidem. Avec un homme représenté comme ayant à la plante de ses pieds, comme support héraldique, un lion et un serpent. Or, si j'ai pu fouler ainsi le propre lion que je suis, c'est grâce au serpent et à sa prudence, qu'on appelle trop légèrement parfois un défaut, car la profonde sagesse de l'Évangile en fait une vertu, au moins une vertu pour les autres. Notre serpent,
au sifflement jadis harmonieusement modulé, quand il avait un charmeur, fort charmé du reste, n'était pas seulement musical et reptile, il avait jusqu'à la lâcheté cette vertu, que je tiens maintenant pour divine, la prudence. C'est cette divine prudence qui l'a fait résister aux appels que je lui ai fait transmettre de revenir me voir. Et je n'aurai de paix en ce monde et d'espoir de pardon dans l'autre que si je vous en fais l'aveu. C'est lui qui a été en cela l'instrument de la sagesse divine, car, je l'avais résolu, il ne serait pas sorti de chez moi vivant. Il fallait que l'un de nous deux disparût. J'étais décidé à le tuer. Dieu lui a conseillé la prudence pour me préserver d'un crime. Je ne doute pas que l'intercession de l'archange Michel, mon saint patron, n'ait joué là un grand rôle, et je le prie de me pardonner, de l'avoir tant négligé pendant plusieurs années, et d'avoir si mal répondu aux innombrables bontés qu'il m'a témoignées, tout spécialement dans ma lutte contre le mal. Je dois à ce serviteur, je le dis dans la plénitude de ma foi et de mon intelligence, que le Père Céleste ait inspiré à Morel de ne pas venir. Aussi, c'est moi maintenant qui me meurs. Votre fidèlement dévoué, Semper Idem, P. G. Charlus. Alors, je compris la peur de Morel. Certes, il y avait dans cette lettre bien de l'orgueil et de la littérature, mais l'aveu était vrai. Et Morel savait mieux que moi que le côté presque fou que Madame de Guermantes trouvait chez son beau-frère ne se bornait pas, comme je l'avais cru jusque-là, à ces dehors momentanés de rage superficielle et inopérante. Mais il faut revenir en arrière. Je descends les boulevards à côté de M. de Charlus, lequel vient de me prendre comme vague intermédiaire pour des ouvertures de paix entre lui et Morel. Voyant que je ne lui répondais pas, il continua ainsi. Je ne sais pas, du reste, pourquoi il ne joue pas. On ne fait plus de musique sous prétexte que c'est la guerre. Mais on danse, on dîne en ville. Les fêtes remplissent, ce qui sera peut-être, si les Allemands avancent encore, les derniers jours de notre Pompéi. Pour peu que la lave de quelques Vésuves allemands, leurs pièces de marine ne sont pas moins terribles qu'un volcan, viennent les surprendre à leur toilette et éternisent leurs gestes en l'interrompant, les enfants s'instruiront plus tard en regardant dans les livres de classe illustrés Madame Mollet qui allait mettre une dernière couche de fard avant d'aller dîner chez une belle-sœur, ou Sosthène de Guermantes finissant de peindre ses fossiles. Ce sera matière à cours pour les brichots de l'avenir. La frivolité d'une époque, quand 10 siècles ont passé sur elle, est digne de la plus grave érudition, surtout si elle a été conservée intacte par une éruption volcanique ou des matières analogues à la lave projetées par bombardement. Quel document pour l'histoire future, quand les gaz asphyxiants analogues à ceux qu'émettait le Vésuve et des écroulements comme ceux qui ensevelirent Pompéi garderont intactes toutes les dernières imprudentes, qui n'ont pas fait encore filer pour Bayonne leurs tableaux et leurs statues. D'ailleurs, n'est-ce pas déjà, depuis un an, Pompéi par fragments, chaque soir, que ces gens se sauvant dans les caves, non pas pour en rapporter quelques vieilles bouteilles de Mouton Rothschild ou de Saint-Émilion, mais pour cacher avec eux ce qu'ils ont de plus précieux, comme les prêtres d'Herculanum, surpris par la mort au moment où ils emportaient les vases sacrés. C'est toujours l'attachement à l'objet qui amène la mort du possesseur. Paris, lui, ne fut pas, comme Herculanum, fondé par Hercule. Mais que de ressemblances s'imposent. Et cette lucidité qui nous est donnée n'est pas que de notre époque. Chacune l'a possédée. Si je pense que nous pouvons avoir demain le sort des villes du Vésuve, celles-ci sentaient qu'elles étaient menacées du sort des villes maudites de la Bible. On a retrouvé, sur les murs d'une des maisons de Pompéi, cette inscription révélatrice. Sodoma, Gomorra.
Je ne sais si ce fut ce nom de Sodome et les idées qu'il éveilla en lui, soit celles du bombardement, qui firent que M. de Charlus leva un instant les yeux au ciel, mais il les ramena bientôt sur la terre.
« J'admire tous les héros de cette guerre, » dit-il.
« Tenez, mon cher, les soldats anglais, que j'ai un peu légèrement considérés au début de la guerre comme de simples joueurs de football, assez présomptueux pour se mesurer avec des professionnels, et quels professionnels ! Eh bien, rien qu'esthétiquement, ce sont des athlètes de la Grèce. Vous entendez bien ? De la Grèce, mon cher. Ce sont les jeunes gens de Platon, ou plutôt des Spartiates. J'ai un ami qui est allé à Rouen où ils ont leur camp. Il a vu des merveilles, de pures merveilles dont on n'a pas idée. Ce n'est plus Rouen, c'est une autre ville. Évidemment, il y a aussi l'ancien Rouen, avec les saints émaciés de la cathédrale. Bien entendu, c'est beau aussi, mais c'est autre chose. Et nos poilus, je ne peux pas vous dire quelle saveur je trouve en nos poilus, au petit Parigot, tenez, comme celui qui passe là, avec son air dessalé, sa mine éveillée et drôle. Il m'arrive souvent de les arrêter, de faire un brin de causette avec eux. Quelle finesse, quel bon sens! Et les gars de province, comme ils sont amusants et gentils avec leur roulement d'air et leur jargon patoiseur. Moi, j'ai toujours beaucoup vécu à la campagne, couché dans les fermes. Je sais leur parler. Mais notre admiration pour les Français ne doit pas nous faire déprécier nos ennemis. Ce serait nous diminuer nous-mêmes. Et vous ne savez pas quel soldat est le soldat allemand. Vous ne l'avez pas vu comme moi défiler au pas de parade, au pas de loi, Hunter d'Antlinden. En revenant à l'idéal de virilité qu'il m'avait esquissé à Balbec, et qui avec le temps avait pris chez lui une forme philosophique, usant d'ailleurs de raisonnements absurdes, qui par moments, même quand il venait d'être supérieur, laissaient voir la trame trop mince du simple homme du monde, bien comme du monde intelligent.
Voyez-vous, me dit-il, le superbe gaillard, qu'est le soldat Boche, est un être fort, sain, ne pensant qu'à la grandeur de son pays. Deutschland über Hall. Ce qui n'est pas si bête, et tandis qu'il se préparait virilement, nous nous sommes abîmés dans le dilettantisme.
Ce mot signifiait probablement pour M. de Charlus quelque chose d'analogue à la littérature, car aussitôt se rappelant sans doute que j'aimais les lettres et avais eu un moment l'intention de m'y adonner, il me tapa sur l'épaule, profitant du geste pour s'y appuyer jusqu'à me faire aussi mal qu'autrefois, quand je faisais mon service militaire, le recul contre l'omoplate du 76. Il me dit, comme pour adoucir le reproche,
« Oui, nous nous sommes abîmés dans le dilettantisme. Nous tous, vous aussi, rappelez-vous. Vous pouvez faire comme moi votre mea culpa. Nous avons été trop dilettantes. »
Par surprise du reproche, manque d'esprit de répartie, déférence envers mon interlocuteur et attendrissement pour son amicale bonté, je répondis comme si, ainsi qu'il m'y invitait, j'avais aussi à me frapper la poitrine, ce qui était parfaitement stupide, car je n'avais pas l'ombre de dilettantisme à me reprocher.
« Allons, me dit-il, je vous quitte. »
Le groupe qu'il avait escorté de loin ayant fini par nous abandonner.
« Je m'en vais me coucher comme un très vieux monsieur, d'autant plus qu'il paraît que la guerre a changé toutes nos habitudes. Un de ces aphorismes qu'affectionne Norpois. »
Je savais du reste qu'en rentrant chez lui, M. de Charlus ne cessait pas pour cela d'être au milieu des soldats, car il avait transformé son hôtel en hôpital militaire, cédant du reste, je le crois, aux besoins bien moins de son imagination que de son bon cœur.